qui dit tentation et vivre avec les tentations qui nous entourent, c'est-à-dire qu'il y a des attitudes dans le monde, il y a des comportements, il y a des occasions dans le monde qui nous éloignent du Seigneur et qui nous éloignent du bien. Parce que qui dit tentation, dit la présence, et c'est dans toute la Bible que vous le verrez de façon différente, la présence du démon. Nous croyons dans notre foi catholique, et c'est la foi biblique aussi, de l'existence d'un être spirituel. On a fêté les saints archanges il n'y a pas très longtemps. Lucifer, celui qui porte la lumière, c'est comme enorgueilli et n'a eu de cesse de lutter contre Dieu. Donc c'est important de resituer ça dans un combat, j'allais dire, plus cosmique, plus général, même si on va voir des points plus particuliers, ceux qui nous concernent, mais de dire, tiens, la tentation, ça veut dire que ça ne va pas de soi de suivre le Seigneur. D'être fidèle à l'Évangile, ça ne va pas de soi. Il y a quelque chose qui en nous ou autour de nous, parce que les deux sont vrais, en nous ou autour de nous, s'opposent à Dieu. Il y a des choses qui s'opposent à Dieu. Il y a des peurs de Dieu. Il y a des peurs de Dieu et les tentations sont précisément là. Et le démon, qu'est-ce que c'est qu'une tentation? C'est vraiment, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ça nous fait voir quelque chose comme étant un bien, étant une source de bonheur, alors que ça nous amène dans la souffrance. C'est ça la tentation. C'est la tentation, vous faites bien la différence entre tentation et péché. C'est pas du tout pareil. Hein, le péché, c'est céder à la tentation. La tentation, c'est ce plan incliné. Tu te dis, tiens, si je vais, par exemple, autour de la machine à café dans mon job, etc., c'est sûr, on va critiquer le ou la manager. Ben, ça, c'est une tentation. Et de critiquer le manager n'a jamais aidé personne à changer de manager, et encore moins à fédérer l'équipe. Donc, je sens que si je vais là, le prochain pas, c'est le péché. Mais la tentation n'est pas le péché. Mais il y a aussi ça existe, moi j'ai vécu longtemps en Argentine, dans l'acte de contrition en espagnol, on dit « renuncio firmemente, no pecar más, evitar las ocasiones próximas al pecado ». C'est on renonce fermement ne plus pécher et éviter les occasions qui conduisent. Et dans la tentation, c'est ça. Je ne vais pas me mettre dans une situation qui, ensuite, je sais où ça va aller. Je sais très bien que si, par exemple, j'ai une fragilité, par exemple avec l'alcool ou avec quelques substances caribéennes, etc., et que je sais très bien qu'en allant je sors de mon appartement, de mon domicile, et je vais à gauche, il y a le bistrot où il y a le vendeur, je sais bien qui est là, etc. Et si je vais à droite, non, par exemple. Du coup, ça veut dire une liberté. Se dire indiscernable. Je le sais, ça. Dans la tentation, on le sait. C'est pas une ignorance. Vous voyez, on le sait parce que peut-être on a fait l'expérience. Et évidemment que plus les expériences ont été faites, c'est-à-dire d'échecs, de lutter contre la tentation, plus s'instille en nous la capacité d'aller vers le mal, c'est-à-dire vers là ce qui ne nous construit pas, vers un faux bonheur. Donc je trouve ça intéressant de dire, tiens, savoir aussi avec l'expérience, vivre, on a tous fait l'expérience de la tentation, on n'a pas cédé, et je veux dire, la meilleure manière de ne plus avoir de combat spirituel, c'est de céder à toutes les tentations. Là vous êtes tranquille, pépère, parce que vous dites oui à tout, toutes les tentations, tout ce qui vous est proposé par le monde. On verra ce qui nous est proposé par le monde, on en trouve une trace aussi dans la Bible, évidemment. Mais si vous dites, non, ça, il y a quelque chose d'objectivement mauvais. Je suis attiré vers ça. Je suis attiré. Il y a comme une inclinaison. Il y a une sorte de... Mais dès que vous êtes dans le toboggan, c'est beaucoup plus compliqué de résister. C'est-à-dire que dès que vous êtes, par exemple, à côté de la machine à café, il y en a un qui commence à lancer le sujet... notre manager, c'est vraiment un problème, eh bien c'est compliqué, d'autant plus qu'on fédère, on fait groupe en critiquant, vous voyez, rien que de s'unir en ayant un ennemi commun. Et donc, c'est intéressant de dire que plus j'ai répété cette action de la machine à café, plus ce sera compliqué de m'extraire du groupe et de ne plus aller à la, et de faire autre chose, de sortir dehors, de me détendre, etc. Mais du coup, derrière ça, vous voyez, il y a l'image qu'on veut avoir de soi. On est comme, comment on peut dire, on est comme dans la tentation, surtout quand il y a une dimension de groupe, on veut plaire. Il y a une dimension de vouloir plaire à d'autres. Parce qu'on fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde. Et si on s'extrait plus exactement de ce groupe de la machine à café, je sais que c'est peut-être moi qui vais être critiqué. Parce que on va pas comprendre mon attitude. Mais t'as changé. Et donc, vivre avec la tentation qui nous entoure, c'est d'abord avoir une liberté intérieure par rapport au regard des autres. Plaire, c'est une plaie. Plaire, vouloir plaire, c'est une plaie. Et c'est autant masculin que féminin. Vouloir plaire. Et comment est-ce qu'on plaît ? Eh bien, en suivant le cours du ruisseau, là, cette branche morte, hein, qui suit le ruisseau, alors qu'on le sait très bien, l'image est souvent employée. Voilà, si on veut lutter contre la tentation, c'est remonter le courant jusqu'à la source. Donc, c'est intéressant de dire, tiens, déjà vivre avec les tentations qui nous entourent, c'est rentrer dans quelque chose où on ne va pas être comme tout le monde. D'où l'importance aussi de la formation. Et ce lieu-là, qui vous est offert par l'association, est un lieu de formation. C'est-à-dire que vraiment de se former, d'éclairer son intelligence, de former soi, d'éclairer sa conscience. Il y a un jugement de conscience. Alors nous, comme je pense la plupart d'entre vous, vous êtes en tout cas une culture chrétienne ou un peu vernie, j'en sais rien comment vous en êtes, ou d'autres sont très affirmés dans leur foi, etc. Mais nous croyons que toute personne humaine, par sa conscience, il y a là le temple du Seigneur. C'est à la capacité de jugement de conscience, de faire le bien et d'éviter le mal. C'est ça le jugement de conscience. Et il y a des choses, je sais que ça ne m'aide pas. Je sais que ça m'emmène dans la souffrance. Je sais que ça emmène peut-être les autres dans la souffrance. Vous voyez ? Et donc, mais parfois j'y vais. Et ensuite on se dit, mais en fait ça n'a pas du tout construit. Le discernement par rapport, je parlais de la parole, hein, mais aussi par rapport à nos actes, hein, en pensée, en parole, par action et pas par omission, hein, vous connaissez bien ça, par nos pensées, nos actes, voilà, il y a des actes, on sait très bien qu'il y a des actes, si je les pose, eh bien ça va entraîner de la souffrance pour d'autres, et peut-être pour moi. C'est un faux bonheur. Il y a un mensonge. Il y a toujours un mensonge dans la tentation. Et c'est pas pour rien qu'on appelle le démon le père du mensonge. Il y a une promesse de bonheur, mais ensuite, qui laisse un goût amer. Il y a toujours ça. Et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on est tenté. Le démon nous tente par l'imagination. C'est par l'imaginaire qu'on est tenté. On se figure que si... Par exemple, on se figure que si on ne met, on pas tout, par exemple, sur sa feuille d'impôt, bon, maintenant, on paye les impôts, mais quand il s'agissait de remplir sa feuille d'impôt, ceux qui sont salariés, mais ceux qui ont d'autres revenus, mais est-ce que je vais tout mettre hors c'est... Bon, ben, attention, il y a ce qu'on appelle la rationalisation. Mon père, qui est le premier voleur ? C'est l'État. Donc, en fait, c'est parfait. Si je ne mets pas tout, j'ai des dividendes, par exemple, j'ai ceci, j'ai cela, qui me viennent de ma famille, de ce que sais-je, de mes placements. Bon, voilà. Rationaliser. On n'est pas au clair. On n'est pas honnête. Pourtant, on est content d'avoir les ambulances, un État qui tient. Moi, je viens de passer 15 jours en Argentine. Et là, vous verrez ce que c'est qu'un État qui ne tient pas. Donc, je trouve ça important d'être attentif à ça, d'être soi-même au clair, vivre avec les tentations qui nous entourent, c'est soi-même au clair et se dire, tiens, non, ça n'aide pas. Ça ne conduit pas vers le bien. Ça ne conduit pas vers le bien. Donc, tout ce qui est en lien avec l'imaginaire, soyez attentifs à ça, parce que d'autant plus qu'on n'est pas fait de la même manière, tous. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un imaginaire extrêmement développé, plutôt des personnalités créatives ou artistiques, etc., et dont parfois c'est le métier, et dont le métier, justement, est d'avoir de l'imagination. Et donc, ces personnes-là, c'est intéressant, sont peut-être plus sujettes à des formes de tentation, à avoir des propositions qui leur viennent à l'esprit et qui ne conduisent pas au bien. Donc en tout cas, c'est-à-dire aussi derrière ça, c'est apaiser son imagination. Apaiser son imagination, je trouve pour être se garder pur au milieu du monde, hein, comme dit Saint Paul, ne pas se mettre dans une situation où je ne vais plus pouvoir résister. Et donc ne nous laisse pas entrer en tentation, on le dit très bien dans Notre Père. Donc, je trouve ça vraiment que nous-mêmes, nous puissions dans notre méditation de ce soir, déjà repérer quels sont les lieux où je suis tenté. Quels sont les lieux ? Il y a grosso modo 3 lieux. Donc c'est plutôt simple. Et ça, où est-ce que je trouve les 3 lieux ? Eh bien, je le trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, les tentations du Christ. Le Christ a été tenté dans son humanité, évidemment, pas dans sa divinité, ça ne pourrait avoir aucun sens, mais il a été tenté par le démon. Et donc je vous renvoie, si vous pouvez, vous pouvez consulter, etc. Donc c'est Luc 4, 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. Hein, vous vous rappelez, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours et être tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, etc. Hein, donc, et c'est intéressant, 40 jours. 40, dès que vous trouvez 40 dans la Bible, les 40 ans dans le désert, les 40 jours, etc., etc., ça veut dire qu'il y a une nouveauté. Ça veut dire que 40, en tout cas, c'est comme ça que dans la Bible, on comptait les semaines de grossesse d'une femme. Hein, 40 semaines d'aménorrhée. Hein, donc on disait 40. Donc ça veut dire que, au fond, 40, derrière ça, il y a l'idée de, quand Jésus va après 40 jours au désert, il y a l'idée d'une nouveauté, il y a l'idée de quelque chose qui va être différent, il y a l'idée d'une fécondité, au fond. Et c'est important aussi que nous ayons ça, cette idée-là, de dire que, au fond, la lutte contre la tentation, repérer les tentations, on va voir lesquelles en poursuivant l'évangile de Saint-Luc, parce que du coup, c'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, au fond, il y a aussi une fécondité dans le combat spirituel. Ça demande de la volonté, hein, ça demande déjà de le vouloir. Est-ce que je veux vraiment être fidèle à l'Évangile ou pas? Une fois que je le veux, parce que le problème est dans la volonté, ou dans l'intelligence, je vous ai dit rationaliser, c'est-à-dire que les personnes ne se rendent même pas compte que c'est un problème. Et on voit bien dans notre société, voilà, c'est ce qu'on appelle le relativisme, etc. C'est-à-dire, de fond, on prend pour bien ce qui est mal et pour mal ce qui est bien. Donc, il y a une sorte de renversement de valeur qui fait que soi-même, quand on veut aller, on dit, ben non, ça, c'est pas en place, ça, c'est quelque chose qui est pas juste, qui est pas. Du coup, on rentre dans un combat intérieur. Donc, c'est une épreuve, la tentation, c'est une épreuve. Et du coup, de là vient aussi une fécondité. Vous voyez, ça, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est important, 40 jours, donc quand vous dites 40, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de... Quand j'ai réussi à passer au-delà des tentations, il y a une sorte de libération intérieure. Parce que le combat spirituel me libère, au fond. Et être soumis au gré du monde, etc., et écouter de la branche morte dans le fleuve, etc., ça me libère pas, c'est les autres. Je vis par procuration. Céder à la tentation, c'est vivre par procuration. C'est pas être libre. Et Jésus, lui qui a subi ces tentations, qui a été tenté par le démon, il nous amène, et par sa victoire sur la tentation, et évidemment sa victoire sur la mort, nous amène à une liberté intérieure. Vous voyez, donc, vraiment, quand on cède à le péché, c'est le hamster dans la roue. C'est-à-dire que vraiment, il y a des choses où on sent bien, enfin, y venir, où on est plus fragile que d'autres, et que si on ne s'extrait pas si on ne fait même pas le premier pas qui pourrait éventuellement apporter un deuxième et éventuellement nous mettre dans le toboggan, mais si on, c'est ce premier pas-là qu'il faut lutter. C'est là où il faut travailler. C'est ce premier pas. Parce que le premier, le deuxième et le troisième, et je sais très bien où ça va. Quelles sont les tentations? Il y en a trois. Les grandes tentations. Donc, vous lisez, je vous laisse relire Luc 4, 1 à 13. Donc, il ne mangea rien durant ces jours-là, etc. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Donc, c'est tout ce qui est à voir avec notre corps. Tout ce qui est, j'allais dire, source de plaisir. Mais de plaisir qu'on voit bien, c'est désordonné. Il y a quelque chose de désordonné dans notre manière de faire. Donc, tout ce qui est... Et quand vous verrez les trois... J'aurais évoqué les trois choses. Tous les scandales qui arrivent, c'est une des trois, voire les trois tentations. Il y a trois lieux de combat. C'est pas spontané, intuitif, d'avoir un rapport à son corps et à ce qui est source de plaisir et qui est bon. Cette source de plaisir, elle est aussi source de joie. Hein, et c'est à saint Thomas d'Aquin qui dit le fait de faire un acte sans avoir de joie, c'est moins bon que de le faire en ayant de la joie. Donc, mais c'est juste, est-ce que c'est il y a une fragilité qui fait que je me laisse emporter vers des plaisirs, mais qui ne me construisent pas, je suis une sorte d'esclavage. C'est toutes les addictions. Là, vous avez toutes les addictions. Hein? Mais ça, l'addiction, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi. C'est ça, l'addiction. Hein? Donc, d'être assez attentif à ça, de dire, tiens, au fond, qu'est-ce qui, dans mon rapport à mon corps, etc., peut être tentation, et c'est intéressant que la tentation, on la voit comme plaisir désordonné, etc. Oui, mais ça peut être aussi l'inverse. Avoir une sorte de regard négatif sur son propre corps, ne pas s'autoriser des choses qui, au fond, sont bonnes. Hein? Donc c'est le plus et le moins. Donc c'est la vertu est dans le juste milieu, vous le savez. Donc c'est intéressant de voir que la tentation, on pense toujours à... Mais ne pas en moins, en négatif, en creux, ça peut être aussi une tentation. Parce que de ne pas prendre soin de son corps, de ne pas être attentif à consulter, de pas, etc., etc. Je pense par exemple dans la vie matrimoniale, moi je suis plutôt pas mal impliqué dans l'accompagnement des couples, etc. Se refuser à l'union intime des époux, c'est une tentation. Vous voyez, c'est alors que objectivement c'est un acte bon. Vous voyez, donc c'est intéressant de. Ensuite, la deuxième tentation, il l'emmena plus haut. Le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Elle m'a été livrée, je la donne à qui je veux. Toi donc, prosterne-toi devant moi et elle t'appartiendra. » Et le Seigneur répond « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. À lui seul, tu rendras un culte. » Intéressant, à chaque fois, le Seigneur répond par la parole de Dieu. Et je trouve ça intéressant de dire que nous-mêmes, qu'on a repéré une tentation, qu'on ait à disposition une parole de l'Écriture, hein, quelque chose qu'on se répète à soi-même. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà, cette parole de Dieu qu'on se répète à la manière d'un mantra, d'une certaine manière, qu'on ait une parole à disposition. Si le Seigneur a répondu à la tentation démoniaque par une parole, c'est pas pour rien. C'est intéressant, c'est que la parole de Dieu, et il y a de nous, on a des paroles qui nous touchent dans notre vie, etc. Cette parole de Dieu, elle a, vous voyez, elle a un pouvoir, et donc de se dire à soi-même, Ben non, ça, une parole qu'on se, non, ça je n'en veux pas. Se répéter à soi-même de façon à lutter et être attentif. Donc, tout ça, bon. Et alors là, cette tentation-là, évidemment, c'est tout ce qui est royaume, donc c'est pouvoir, richesse. Pouvoir, richesse, c'est tout ce qui touche, voilà, les royaumes, la manière de gloire. Gloire, pouvoir, richesse. Hein, c'est, on voit bien, c'est. Et en nous, il y a quelque chose qui prend de ça aussi. Ne disons pas que nous sommes des parfaits, que rien ne nous touche. Non. De la vaine gloire, par exemple, quand on nous flatte, la flatterie, c'est bien de la repérer. Mais parfois, ça nous caresse dans le sens du poil, etc. Et donc, ça c'est une tentation. Du coup, ou de se replier sur soi-même, de se dire, mais waouh, qu'est-ce que t'es un type super, etc. De vraiment se repaître de soi-même, c'est aussi une tentation. Vous voyez, je trouve ça intéressant. On n'est plus dans le don. Et donc, donc gloire, richesse, pouvoir, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, qui est de ce que propose le monde, au fond, rien de nouveau sous le soleil. Hein, et du coup, vous avez tous les abus, tous les abus dans ce niveau-là, par exemple, tout ce qui est emprise. Tout ce qui est emprise, c'est là-dedans. Tout ce qui est détournement d'argent, etc., c'est là-dedans. Tout ce qui est, recherche de la. Abus de pouvoir, par exemple, c'est là-dedans. Harcèlement moral, c'est là-dedans. Vous voyez, donc c'est tout, c'est vraiment là-dedans. Quoi. Et donc Jésus répond, voilà, avec la parole de Dieu, tu adoreras le Seigneur et ton Dieu, et il te rendra, à lui seul, rendra un culte. Voilà. Et puis, il y a troisième tentation, et c'est intéressant, il y a une sorte de gradation dans le récit des tentations. La troisième tentation, c'est le démon qui place le Christ au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent, et encore, sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes une pierre. Et Jésus répond, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Cette tentation-là, c'est la plus difficile. C'est la tentation spirituelle, c'est la tentation de l'esprit. Toutes les tentations sont des formes de toute puissance, qu'on pourrait dire aussi orgueil. Et on dit l'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. Mais j'aime bien aussi ce mot de toute puissance. Tu te mets au-dessus de Dieu, tu te mets au sommet du temple, le temple qui est le lieu du saint. Hein, dans la tradition juive, il y avait le temple existait toujours, donc il a été détruit ensuite en 70, mais le temple existait toujours, et donc tu te mets au-dessus de Dieu, tu agis sans Dieu. Vous voyez, cette tentation de toute puissance de l'esprit, de ces idéologies de personnes qui se repaissent de leur intelligence, vous voyez, des personnes très brillantes, mais qui se. Et cette tentation-là, on la voit des idéologies, par exemple, évidemment, on prend les grandes idéologies athées du XXe siècle, nazisme et communisme, ça on le voit très clairement, mais on peut voir des idéologies, ça peut être aussi une forme d'idéologie, par exemple, l'écologie. L'écologie, on voit bien, mais du coup, maintenant, c'est la personne qui est. Le problème, c'est l'humain. En fait, il ne faut plus faire d'enfants, du coup, sauvons la planète. Ben non, nous, c'est pas non. Non, ça va pas être, enfin, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. L'homme est plutôt, la personne humaine est plutôt du côté de la solution que du problème. C'est aussi un problème, mais c'est le péché qui est un problème, mais c'est pas la personne elle-même. Oui. Du coup, c'est cette sorte d'idéologie qui sont instillées comme ça voilà, c'est donc d'être soi-même attentif, d'où l'importance d'être formé. D'où l'importance d'avoir une claire vision, d'où l'importance d'avoir quelque chose qui vous aide à discerner. Hein, à discerner. Parce que quand on discerne au fond le mensonge. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du mensonge. Hein, et donc là, on se met au-dessus de Dieu, cette troisième tentation. Et comment est-ce que nous, on peut se mettre au-dessus de Dieu? Ben, tout simplement, en n'étant pas. Fidèle à la prière. Au fond, le fait de ne pas être à l'écoute du Seigneur, c'est aussi une manière de se mettre au-dessus. Très clairement. C'est le fait de ne pas être au-dessus du Seigneur, de se mettre au-dessus de Dieu, de se mettre au sommet du temple, etc., de s'enorgueillir, comme dit, tu te prosterneras, voilà, tu es le fils de Dieu, de toi en bas, voilà, on tente Dieu, etc. Je trouve intéressant de dire, tiens, à travers ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de toute-puissance, je ne reconnais pas mon état de créature. C'est ça le truc. Derrière, je ne reconnais pas ma finitude. Je ne reconnais pas ma... Et je pense que de dire, non, j'ai aussi besoin, on a tous besoin d'une rampe. Tous besoin d'une rampe. C'est-à-dire tous besoin d'être soutenus. Parce qu'on voit bien qu'en nous, il y a, et en fonction de l'un ou l'autre, il y a un truc qui, voilà, on sent que... Vous savez, comme il y a des voitures, le parallélisme n'est pas bon. Et donc, vous laissez la voiture, et ensuite, vous voyez que la voiture... Et vous êtes obligé de redresser la voiture, parce que vous la laissez sur le volant sans le toucher, vous voyez que... Et bien, notre humanité, elle est aussi comme ça. C'est qu'il y a des trucs où on voit que... On a besoin d'une rampe, on a besoin d'une règle de vie, d'une certaine manière. On a besoin de quelqu'un qui nous redit les fondamentaux. Parce que on se laisse entraîner par le courant. Et donc, ces trois formes de toute-puissance, qui sont donc la toute-puissance de la chair, la toute-puissance des richesses, de la gloire, et la toute-puissance de l'esprit, ça nous habite. Maintenant, je trouve que j'aimerais bien vous parler d'autre chose, c'est la différence entre péché et blessure. C'est pas pareil. Parce que le péché est toujours volontaire. Ça c'est important. On ne pêche pas sans le savoir. On ne pêche pas, je veux dire, ça demande une connaissance. Donc, ça, objectivement, ça c'est mal, critiquer quelqu'un, voir la calomnie, etc., objectivement, c'est mal. Du coup, je l'ai fait volontairement. C'est qu'il y a ma liberté, c'est mise là-dedans. C'est ça, au fond. J'ai vu l'inclinaison qui est la tentation, finalement, j'ai cédé et je suis allé dans le péché. C'est-à-dire, je suis allé dans ma liberté, on a choisi le mauvais camp. Donc, c'est toujours des actes libres qu'on confesse. C'est intéressant, c'est des actes libres. C'est pas facile parce que, du coup, je trouve que parfois, quand comme prêtre, on confesse, etc., moi, je dois un peu rappeler ça, que c'est des actes libres. Prenons un exemple. La colère. Il y a des personnes qui sont colériques, soupaulées, tout de suite, ça monte, etc. Bon, et peut-être parmi vous, etc., la colère. Mais il n'y a pas une décision de se mettre en colère, qui est quelque chose de l'ordre du subi. Vous voyez ? Et je me dis, tiens, du coup, si c'est de quelque chose qui n'a pas été volontaire, maintenant je me dis, est-ce que c'est vraiment la colère qu'il faut... Et je vois que ça a fait du mal à d'autres, ça m'a fait du mal à moi, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut confesser, par exemple ? Est-ce qu'il faut vraiment ça qu'il faut regretter ? Est-ce qu'il ne faut pas plus regretter ? Moi, je pose la question, mais du coup, qu'est-ce que vous mettez en place pour que... en quoi vous vous faites aider ? Pour pas que ça revienne un peu comme un disque rayé. Oui, attention de ne pas transformer le confessionnal en station de lavage. C'est-à-dire que vous êtes attentif à ça, d'être... Voilà, il y a vraiment des actes où j'avais le choix... C'est ça. J'avais le choix. C'est pas que j'avais pas le choix. Personne m'a mis un pistolet sur la tempe. J'avais le choix. Et je me suis... Mais la colère, il y a des personnes comme ça, c'est parfois une blessure. À quoi est-ce qu'on voit une blessure ? C'est une sorte de surréaction. Et vous connaissez, donc il y a cinq grands types de blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Vous voyez, il y a une blessure là. Alors, c'est là où c'est compliqué, parce que ensuite le démon va venir nous chercher aussi dans la blessure. Par exemple, j'estimais à ne pas avoir reçu assez d'affection de ma famille, de mes parents, que sais-je, donc une sorte de blessure d'abandon. Du coup, dès que je sens que je suis mis de côté, tac, surréaction. Mais moi, pour moi, c'est un truc, ça, mais je ne l'ai pas laissé, c'est venu sans crier gare, vous voyez ce que je veux dire, mais parce que l'autre est venu toucher une blessure. Mais la blessure n'est pas péché, je veux dire, la blessure, ce qui peut en venger, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Là, tu as une liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? En quoi? Tu sais très bien que, bon, cette blessure d'abandon, par exemple, d'humiliation, ou dès que tu sens de l'injustice, ça surréagit à fond. Bon, ok, tu le regrettes, tu t'en confesses. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a fait? Comment tu mets, qu'est-ce que, là, où est-ce que t'as le choix? Où est-ce qu'il y a une possibilité de progression? Oui, où est-ce qu'il y a une possibilité d'aller voir un professionnel? Mais c'est pas le prêtre qui va s'aller de psy, chacun son métier. Donc, d'aller voir quelqu'un qui va vous aider aussi à travers des exercices, etc., à canaliser aussi la partie émotive en vous qui surréagit. Donc, je trouve ça intéressant de... vraiment, on confesse des actes libres. Et peut-être l'acte à confesser, c'est de dire, eh bien, j'ai pas pris les moyens d'eux. J'ai pas pris les moyens de m'en sortir. Je vous prends un exemple qui est malheureusement assez commun, plutôt chez les garçons que chez les filles, mais bon, l'addiction à la pornographie. L'addiction à la pornographie, on peut s'en sortir. C'est pas une fatalité. Et on voit bien que c'est l'ordre de la tentation. On voit bien que ça, c'est un truc... Et même les pouvoirs publics commencent à prendre conscience qu'il y a de plus en plus de violence, de plus en plus, etc. Et que dès l'adolescence, voire la préadolescence, les jeunes sont formatés comme ça. Du coup, on traîne ça dans le mariage aussi. Le mariage n'est pas un remède à l'addiction. Vous voyez, donc, qu'est-ce que je mets en place? Je vois que ça m'aide pas. Je vois peut-être aussi que quand je suis dans une situation comme seul ou en déplacement professionnel ou etc., ben voilà, je vais cliquer là où il ne faut pas. Donc, puis maintenant, c'est H24, je veux dire, c'est une accessibilité. Mais qu'est-ce que je... Alors on dit oui, je demande pardon, ça va très bien. Bon, c'est bien de demander pardon, mais moi je me dis pénitence. Pénitence, c'est pas facile de donner une pénitence. La pénitence, elle doit te faire progresser. C'est pas juste un pater et deux jadés. C'est-à-dire que la pénitence, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu... Ben, je te demande, tu suis un parcours, tu sors de là. Et tu demanderas, si tu te confesses à n'importe quel prêtre, tu examineras... c'est intéressant, la pénitence, parce que la pénitence, il y a deux fonctions de la pénitence. C'est guérir et réparer. Guérir et réparer. C'est-à-dire que, voilà, suis un parcours de libération de cette addiction. C'est là, c'est celle-là, ça peut être d'autres. C'est là où tu vois que tu es, d'autres agissent à travers toi et te font poser des actes que tu ne veux pas au fond. Hein, donc, du coup, la pénitence, c'est, on dit, suis un parcours. Et quand tu iras te confesser à qui que ce soit, tu dis, le Père m'a dit de suivre un parcours et je ne l'ai pas fait. Ok, d'accord. Ça, c'est un acte libre. Et ça, tu l'as pas fait. C'est plus grave ça que d'avoir cliqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que quand on clique, il y a le côté réflexe de Pavlov, si vous voulez, puis toute ce qu'on appelle la sérotonine dans notre cerveau, toutes les hormones du plaisir qui sont activées, etc. Donc du coup, mais en revanche, tu avais une possibilité. Il y a des parcours qui existent. Et qui peuvent vraiment vous en sortir. Il ne faut pas juste bloquer le désir, il faut assécher le désir. C'est l'assécher. C'est ça qu'on en est sorti quand on n'en a même plus besoin. Donc, je trouve que c'est intéressant que on confesse des actes libres. Et il y a possibilité, aussi nous-mêmes de sortir, d'avancer, hein, de vivre avec les tentations qui nous entourent. Oui, nous sommes entourés de tentations parce que le monde aussi, les conséquences du péché originel en nous et autour de nous, elles sont présentes. Mais c'est justement ce monde-là que Jésus est venu habiter et est venu sauver. C'est ce monde-là. C'est pas un autre monde. Et je trouve ça bien de soi-même, de dans ce monde-ci, comment est-ce que moi je me renforce. Et vous avez, vous rappelez, les armes du combat spirituel selon Saint Paul, hein, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Hein, Éphésiens 6, si vous voulez la reprendre. Alors, c'est des allégories, etc. Mais c'est intéressant, comme il dit Saint Paul, parce que lui-même, Saint Paul, il dit « Moi, j'ai une écharpe dans ma chair, etc. » Alors, bon, c'est pas trop ce que c'est, mais on imagine qu'il a du mal à vivre paisiblement, peut-être le célibat, peut-être, c'est possible. Hein. Donc, mais du coup, il dit, voilà... Comme baptisé, et ça c'est la grâce du baptême, on a des ressources en nous. On a, et par les sacrements, la parole de Dieu, on n'est pas sans rien, vous voyez. Vous découragez pas, on n'est pas sans rien. Parce que c'est vrai que la tentation la plus grande, c'est le découragement précisément. Encore une fois, je fais ça. Encore une fois, ben, c'est pas ça que je fais, c'est pas vraiment ça. Mais j'y suis quand même allé, Oui, voilà, c'est. Je trouve que c'est vraiment intéressant de dire on a nous-mêmes à notre disposition des outils qui nous aident à vivre avec les tentations qui nous entourent. Oui, voilà, on les repère. Et un autre truc, ça attention. C'est ce que Pape Jean-Paul II appelait les structures de péché. Il y a des trucs qui te conduisent au péché direct. Par exemple, si dans ton travail, on te demande de mentir au client, par exemple, de ne pas dire la vérité, bon, ça c'est une structure de péché. Toutes les structures de pauvreté sont des structures de péché. Parce qu'on voit bien avec la pauvreté, arrive la prostitution, arrive avec le vol, arrive toute la rapine, etc. Il y a des trucs qui des structures, mais vous, peut-être dans votre vie, plutôt la vie professionnelle, où parfois il y a des amitiés, vous sentez, ça ne vous construit pas, ça ne vous aide pas. C'est structure qui vous fait aller là où vous ne voulez pas aller. Donc soyez attentifs, je pense plutôt à la vie professionnelle, il y a dans la vie professionnelle parfois des injonctions, vous voyez, vous n'êtes pas à l'aise avec. Vous n'êtes pas à l'aise. Alors, c'est pas simple, parce que voilà, parfois c'est enraciné dans l'entreprise ou dans votre métier, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui... C'est pas facile de faire bouger les lignes. Mais c'est quand même possible de faire bouger les lignes dans la vie professionnelle, vous voyez. Donc, d'autant plus quand vous aurez, alors c'est peut-être pas le cas maintenant, mais quand vous aurez aussi une autorité, vous serez en responsabilité. Alors, vous l'êtes peut-être, mais posez-vous la question. Si je suis en responsabilité, justement, je serai aussi peut-être plus tenté, parce que là, il y aura le focus mis sur moi. Mais en quoi je peux aussi faire beaucoup plus de bien et déraciner des structures, des choses qui sont dans l'entreprise, qui conduisent au mal, qui conduisent au mensonge. Parce que tout ça, c'est des mensonges. Toute tentation, c'est un mensonge. C'est une fausse promesse de bonheur. C'est ça. Donc, moi, au client, tu feras plus de ventes. Oui, ok. Mais ensuite, le client est loin d'être idiot. Vous m'avez vendu ça, mais en fait, c'est autre chose. Oui, donc tout dans les assurances vie, les assurances, etc., les petits trucs en dessous, les contrats, les petites lettres, etc. On connaît tous ça. Ça, c'est une... Et alors ? Alors, c'est autre chose. Mais ça, faut... Armez-vous, là. Êtes lanceur d'alerte. Vous lancez une alerte que, là, il y a une tentation. Bon courage, parce que... être lanceur d'alerte, mais si vous dénoncez dans le milieu professionnel des manières d'agir qui, objectivement, vous vous faites accompagner, vous faites vérifier, etc., il faut un peu le discernement, mais qui, là, sont des situations, des structures qui en fait, viennent à ne pas accepter, à ne pas respecter la personne humaine, que ce soit le client ou le salarié, évidemment, vous pouvez aussi lancer des alertes. Vous pouvez aussi vous insurger. Vous voyez, vous pouvez vous insurger. Vous pouvez... Cette colère qui est signe d'une injustice. Alors, c'est toujours bien d'avoir un plan B, parce que pour votre job, après, parce que c'est un peu voilà, au cas où c'est mal pris par la direction. Mais, bon, il y a... Ne pas avoir peur. Nous ne sommes pas sans rien. Le croyant n'est jamais seul. Vous voyez, le croyant n'est jamais seul. Et donc, je pense que c'est important de vous-même d'avoir du courage. Parce que vivre avec des tentations qui nous entourent, oui, mais quand vous sentez que c'est une structure qui pousse à ça, qui vraiment... Il y a à dénoncer des choses. Dénoncer, parce qu'on voit bien qu'il y a un côté, ce qu'on appelle systémique, hein, c'est-à-dire que c'est une manière de procéder qui pousse ensuite, par exemple, au vol, qui pousse ensuite, etc. On a une communauté, donc je fais partie de la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie à l'abbaye d'Ourscan dans l'Oise, et on a une communauté en Argentine. Et là, je vais passer 15 jours en Argentine avec les frères, on voit bien qu'il y a des structures de péché. La corruption est une structure de péché. Hein, on vous propose d'acheter quelque chose avec ou sans TVA. Ben non. C'est quoi ça ? C'est-à-dire, mais du coup, c'est pas facile pour les frères. Parce qu'ils savent très bien que si tu payes avec TVA, lui, la TVA, il va la garder. C'est pas TVA collectée, TVA déduite, hein, ceux qui connaissent un peu... Ah non, il la collecte pour lui, quoi. Ben non, c'est pas ça l'objectif de la TVA. Donc, c'est pas facile d'être dans une situation... On peut rendre grâce. Bon, là, il y a certainement de la corruption en France, etc. Mais c'est pas quand même massif. On a quand même des pavés par feu, des pare-feux. Mais quand vous êtes dans un système où la corruption est systémique et du haut... C'est toujours comme ça, et tout ce monde-là fait toutes les écoles catholiques que vous voulez. Vous voyez. Donc il y a un problème quand même, il y a un problème de formation. Ils ont loupé des cours de catéchisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont loupé, mais bon. Mais la corruption, par exemple, c'est une structure de péché. Du coup, vous êtes tenté. Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous voyez, mais quand vous repérez ça, nous, franchement, c'est une réalité différente, mais quand vous repérez ça, soyez dans vos entreprises ou dans votre famille, par exemple. Donner un moindre prix, critiquer un membre de la famille régulièrement, lui dire du mal de lui, le dévaloriser. Ça, c'est une structure de péché, oui. Et ça, il faut le dénoncer. Et ensuite, on va à la messe. Vous voyez, beaucoup de gens, ils disent, ah ben c'est quoi ces cathos ? Bon, c'est un peu une manière, une bonne excuse, mais c'est quand même une réalité. Je veux dire, ben c'est quoi ce truc-là ? Ils vont tous à la messe, ils regardent ensuite comme ils parlent de leur prochain, etc. Donc, quand vous repérez ça, qu'il y a structurellement dans votre famille, il y a une manière de rabaisser quelqu'un, d'un membre de la famille, de le critiquer en général quand il n'est pas là, ben vous dites, voilà... Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre famille. On ne peut pas être à la fois pratiquant et à la fois dire ça. Ce n'est pas possible. Donc, on peut regretter l'attitude de telle ou telle personne. Mais bon, je pense que voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire pour vivre avec les tentations qui nous entourent. Voilà, c'est les repérer, les repérer. Déjà, en quoi elles ont... On n'est pas sensibles aux mêmes tentations, tous. Donc, je vous ai dit, il y a des blessures qui, parfois, nous rendent plus sensibles à telle ou telle tentation. Il y a nos expériences aussi de vie qui nous rendent plus sensibles à telle ou telle de ces trois tentations que le Christ a vaincues. Il y a des choses qui nous touchent plus. On est plus dans la toute-puissance de l'esprit, parce qu'on se croit un esprit très brillant, etc., etc. Bon, voilà. Donc, et on se repaît de ça. Mais du coup, de repérer la tentation en nous, mais aussi autour de nous, et puis de prendre les remèdes et de dire, tiens, il y a un chemin possible. Il y a un chemin. Un chemin de croissance, il y a un chemin de guérison. Il y a un chemin de salut. C'est ça, notre foi. Vous voyez, notre foi, c'est ça. Nous croyons qu'il y a un chemin. Nous ne sommes pas sans rien. Nous croyons qu'il y a un chemin et que c'est le Christ le chemin. C'est « Acquérions-nous, Seigneur, tu es les paroles de la vie éternelle ». Ben, je trouve ça important de dire que ce chemin-là, c'est vraiment le... Si je suis dans la prière, plus dans une vie spirituelle, plus, ben, du coup, je vais déjà débusquer plus de choses. Et puis aussi, je vais avoir aussi plus de recours, plus de ressources. Vous voyez, pour une plus grande liberté intérieure. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Peut-être, est-ce que vous avez des questions, peut-être, est-ce que vous avez des... Alors, vas-y.
C'était une question sur les structures de péché sur lesquelles on n'a pas de prise ou peu de prise. L'exemple de la corruption est assez bon. Si on vit dans un pays corrompu, sauf à fuir son pays, on va devoir vivre avec cette corruption, de la dénoncer, faire un happening ou quoi que ce soit.
Mais oui.
Ça ne va pas très loin. On peut même ne pas vouloir quitter une structure de péché familiale. On peut aussi voir une forme de loyauté à sa famille.
Oui, complètement. Ah,
voilà. Quand on est coincé dans une structure de péché...
Parce qu'on a le rôle de joker. Oui, non, mais c'est une très bonne question. Merci, parce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas toujours... qu'est-ce qui m'est accessible? Quel est le premier pas que je vais pouvoir faire? Je vous donne un exemple. J'ai des amis, j'ai vécu 10 ans en Argentine, etc. Et du coup, avec la communauté, bon. Et un ami qui est là-bas me dit, sa fille passe le permis de conduire, elle n'a pas son permis de conduire. Celle de l'auto-école fait le tour du pâté de maison, je te le vends pourtant. Ben, lui, il a dit non. Mais moi, j'aurais été beaucoup plus violent que ça. J'aurais dénoncé la personne. De s'insurger, comment est-ce que vous êtes à la fois celle qui fait passer l'examen et vous faites le tour du passé de la maison et vous encaissez? C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Il dit non, si ma fille, demain, elle a un accident, elle tue quelqu'un, et j'ai quoi sur la conscience? En fait, elle n'était pas prête pour son permis, mais il faut qu'elle travaille, c'est tout. Vous voyez, c'est... Il y a des choses, on n'est pas sans rien. Il y a des choses qui vous touchent personnellement. Ne pas hésiter de faire un scandale. Je dis, pourquoi t'as pas fait scandale? Mais dans la rue. Un truc comme ça. De dénoncer. Parce que du coup, il y a la force de la parole. C'est le côté prophétique. On va pas changer toute la structure de corruption de ce pays qui va à la volo complètement. Mais nous sommes aussi, par le baptême, prophètes. Nous avons une fonction prophétique, une mission prophétique. Et quand nous sommes face à des trucs comme ça, est-ce que nous avons le courage de dénoncer des choses qui nous touchent? On ne va pas la structure, on ne va pas bouger le truc, parce que évidemment, c'est une masse devant toi, tu es complètement... on n'a pas prise. Mais ça, du coup, lui, il a dit non. Mais d'autres ont dit oui. Si la fille a proposé, c'est qu'il y a d'autres ont dit oui. Oui, donc, des trucs comme ça. Si dans une structure familiale, c'était très bien, il y a des loyautés qui font que on déprécie quelqu'un, et que ça, on s'en rend compte, stop. Nous, en plus, on se targue d'une famille catho, etc., et on fait ça. Est-ce que vous aurez le courage? Est-ce que vous aurez la grandeur d'âme? voyez, d'aller au front. Comme Jésus a eu la grandeur d'âme aussi de dénoncer.